Eh, Yadima. Ça, c'est quoi, là? Ça va?
C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Je viens de Burkina.
Avant,
quand on faisait les élevages, il n'y avait pas de problème. Partout où tu voulais, tu pouvais partager tes animaux, tes pâturages. Il
n'y
avait pas de problème entre nous à ce moment. Les champs n'étaient pas partout. Mais maintenant, c'est au contraire. Maintenant, ça va être des problèmes. Maintenant, en venant même là, partout où tu vas passer, même si c'est un, il faut que tu donnes quelque chose. Il y a des champs partout. Même pour boire même de l'eau, il y a des certains barrages étaient occupés maintenant. Maintenant, c'est la fatigue qui reste. Sinon, partout, il y a conflit, partout, il y a des choses. Vraiment, pour se nourrir de notre élevage aujourd'hui, vraiment, c'est compliqué.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Brun.
Bienvenue dans cette émission. Nous allons partir dans le nord de la Côte d'Ivoire pour comprendre comment les agriculteurs et les éleveurs essayent de cohabiter pendant la période de la transhumance qui vient de débuter. Parce que cette harmonie séculaire est aujourd'hui bouleversée par la baisse de la fertilité des terres, la pression démographique et le développement des cultures commerciales qui ont réduit les zones de pâturage et bloqué de nombreux couloirs de passage. Résultat, des conflits parfois violents apparaissent entre les deux communautés. Alors comment protéger ce secteur de l'élevage qui représente une source de revenus pour plus de 80 millions de personnes en Afrique de l'Ouest sans porter préjudice aux agriculteurs? C'est l'équation que devront résoudre de nombreux pays africains. Direction donc le nord de la Côte d'Ivoire, la zone d'élevage de ce pays plutôt portée vers l'agriculture. C'est un reportage d'Igor Strauss.
Bonjour.
Herbe.
Au revoir.
De mon retour.
Je suis Alassane Tsoro. Je suis de la société coopérative des éleveurs professionnels de Ferke. Et ici dans la région du Tchologo. Nous sommes ici en forêt classée, précisément à Sangori. C'est à près de 70 km de Ferke Sédougou.
Alors pourquoi vous nous avez emmenés ici pour parler de ce problème entre les agriculteurs et les éleveurs?
Oui, ici parce que le problème est beaucoup récurrent. On a tout le temps des petits problèmes ici entre les éleveurs et les agriculteurs, et les éleveurs et les forestiers, en même temps les agriculteurs et les forestiers.
Et alors c'est une forêt classée, donc c'est une forêt où normalement il ne devrait y avoir ni agriculture ni élevage. C'est ça le fond du problème?
Bon, aujourd'hui, nous-mêmes, on se pose beaucoup la question. Ici, nous sommes en zone tampon, mais nous sommes conscients qu'un peu devant là-bas, c'est la forêt classée. Et là, c'est réservé aux agents de l'assaut des forts. L'assaut des forts, c'est une société qui s'occupe de la protection de la faune. Et ça, c'est une structure de l'État. Donc, eux, avec eux, on a trouvé un accord qui ont des conditions pour avoir accès en forêt. Et il ne faut pas faire des campements en forêt, il ne faut pas détruire les arbres. Et quand vous arrivez, vous devez être en cheptel de 50 troupeaux. Et dans ces 50 troupeaux, vous payez 10 000 francs par mois et par troupeau. Et ça, c'est fait de sorte à ce que nous et les agriculteurs, on ne puisse pas se battre. Parce que le problème aussi est inquiétant pour les autorités. Donc l'assaut de forts a fait un peu cet arrangement-là, il ne serait-ce que pour atténuer un peu ces différents conflits-là.
C'est quoi ce problème de milice là? On entend les éleveurs dire qu'on emprisonne le bétail, qu'on les menotte, qu'on leur fait payer des amendes. Est-ce que tout cela est légal?
Bon, tout cela n'est pas légal. C'est pas les dits des éleveurs que j'ai appris cette nouvelle qui nous choque. Nous avons des frères d'ici qui sont des Ivoiriens qui se sont regroupés, qui ont une organisation. Ils disent qu'ils protègent la faune, qu'ils sont regroupés de façon légale. Leur institution s'appelle AGIREF. Ils s'habillent souvent en militaire. Et c'est eux-mêmes le gros problème. Ils sont plus sévères même que les forestiers formés par l'État. Et quand ils vous prennent, ils vous amènent jusqu'à Bouna. Ils ont une prison là-bas où tu payes 500 000 pour qu'on te libère. Et là, nous les avons rencontrés pour leur dire que non, nous n'avons pas le choix. C'est pour cela que nous rentrons là. Est-ce qu'ils peuvent être un peu... Ils disent que l'interdiction systématique d'accès à ces éleveurs-là. Même quand on te prend avec une corde dans tout le secteur où nous sommes ici, et vous êtes en infraction, ça veut dire que vous allez payer 500 000. Parce que quoi, la corde représente ce qu'on prend pour attraper le bœuf pour les traitements. Même quand on vous voit avec une pompe pour aller détiquer les animaux, c'est une infraction aussi. Donc pendant que tu payes les 500 000, même ta moto reste là-bas. Nous avons décrié tout cela, mais jusque-là, il continue. Donc tant que nous on est là, eux, ils seront là pour nous arrêter.
Merci.
Merci.
Monsieur Kone Lassina, président du conseil régional du Tchologo. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une pression de la population. Il y a une pression sur les parcelles cultivables. Il y a une pression donc sur les choses. Donc, je n'ose pas le dire de ma position de président du conseil, mais je pense qu'on va peut-être aller vers la voie de déclassement d'une parcelle pour permettre donc de résoudre vraiment le problème. Ça pourrait être une idée.
Mais là, vous allez vous mettre à dos les écologistes.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que le ministère des Eaux et Forêts et de l'Environnement, nous allons avoir à dos. Mais il y a une réalité aussi. Vous avez dit tout à l'heure que c'est par obligation que les populations vous ont dit qu'elles sont sur le terrain. Il faut que cette population vive. Et comme on a levé les pieds pendant 15 ans, ces populations ont évolué, a grossi, cette population a grossi. Donc ça fait qu'on est obligé de chercher à résoudre le problème. Et pour le résoudre, il faut couper à gauche, couper à droite. Et donc voilà comment je pense que on va essayer de voir avec les écologistes et voir comment trouver une solution. Parce que l'écologie existe quand il y a la population aussi. Hein.
Voilà. Alors au sein de la forêt classée, il y a donc la solde des forts, il y a les eaux et forêts, mais il y a aussi l'AGIREF. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu, me dire un mot de cet AGIREF?
Non, honnêtement, je ne connais pas bien la structure de l'AGIREF. C'est quelque chose qui a été créé, mais je pense
pour
que...
Pour la protection de la biodiversité, apparemment.
Voilà. Je ne maîtrise pas bien.
Parce que les agriculteurs comme les éleveurs me disent qu'ils subissent de fortes pressions de la GIREF, qu'il y a des captures de bétail, on met des éleveurs en prison en leur demandant des amendes extrêmement élevées, 500 000 francs CFA par éleveur. Est-ce qu'ils sont dans leurs droits? Comment vous expliquez cette situation?
Oui, je suis d'accord avec vous. Là, je suis au courant. J'ai dû intervenir quelquefois, mais effectivement, nous sommes en train de voir réellement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est à payer réellement comme taxe ou bien comme contravention, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport à ça. Sinon, effectivement, il y a des arrestations, il y a des emprisonnements, il y a des enlèvements, si je peux m'exprimer, de bétail, mais je pense quand même que c'est un peu fort. D'emprisonner des éleveurs, d'arrêter de prendre leur bétail et de demander de paiements énormes de certaines taxes. Et ça, en tant qu'élus, nous sommes en train de voir et faire la part des choses et informer largement les éleveurs de savoir si vous empiétez ici, qu'est-ce que vous risquez et autres. Donc ça, on va le faire.
Parce que toujours selon les agriculteurs et les éleveurs, les membres de la GIREF donc sont en treillis, armés, et ils laissent supposer qu'ils appartiennent à l'État, au fait. Et pour les éleveurs et les agriculteurs, il y a une grande confusion. Oui. Pour eux, un treillis, c'est l'État. Oui. Donc il y a une confusion qui n'est peut-être pas très saine à ce niveau-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas éclaircir cette situation?
Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là. J'ai dit que nous allons essayer de clarifier tout ça. Nous-mêmes, aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, nous ne savions pas clairement qui fait quoi. Et je vois que vous qui êtes venu en tant que jeune, vous êtes mieux renseigné que nous.
Parce que moi, je suis allé dans la forêt, voilà. les éleveurs et les agriculteurs voilà. Me l'ont tous dit, tout
voilà.
Simplement.
Voilà. Mais ils vous ont dit ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont sur le cœur réellement. Voilà. Donc, nous avons. Moi, j'ai quelques informations, comme vous le dites, et j'ai relevé effectivement qu'il y a une confusion et il y a beaucoup plus d'abus je pense, à mon avis, qu'il faut gérer.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
La transhumance aujourd'hui dans C'est pas du vent et des conflits que cette pratique séculaire génère entre éleveurs et agriculteurs. Des conflits de plus en plus complexes à gérer pour les nombreux pays africains concernés, comme dans le nord de la Côte d'Ivoire où se trouve actuellement Igor Strauss.
Depuis ma venue en novembre dernier, la JIREF s'est engagée à ne plus emprisonner les éleveurs ni prélever d'amende. Mais le manque de pâturage n'est pas le seul problème pour les éleveurs peuls. L'accès à l'eau est lui aussi problématique et source de conflits avec les agriculteurs.
Monsieur Alassane,
oui.
Où est-ce qu'on est là en ce moment?
Ici nous sommes à Tumkrou, à 1 km du Mali, Karma à la frontière.
Alors là, partout autour de nous, des champs et puis plein de bétail partout.
Oui, ici on a les plantations, on a les éleveurs et c'est une zone agro-pastorale ici. Et vous le constatez vous-même, vous voyez les animaux en train d'y passer, vous voyez les femmes en train de récolter le riz, vous voyez le maïs en train d'être cassé. Ici c'est un peu ça la particularité.
Mais le fait qu'il y ait et les animaux et des cultures, ça pose pas problème ça?
Et ça ne pose pas de problème logiquement si de façon rationnelle nous gérons la surface. C'est pour cela que nous sommes en train de négocier ici les couloirs de transhumance que nous allons réhabiliter et équiper de sorte à ce que les animaux se sentent à l'aise dans ce couloir-là et que les agriculteurs soient dans les différentes plantations pour vaquer à leurs préoccupations.
Donc les couloirs, c'est vraiment des chemins pour permettre au bétail de passer, quoi.
Oui, c'est des chemins et avec des aires de repos, des aires de pâture, des magasins de stockage et puis des barrages qui vont permettre aux animaux d'être à l'aise dans tout le long de leur passage.
Pour la transhumance entre les
différents
pays.
Pour la transhumance, pour le déplacement du bétail.
Et ça, c'est ces couloirs actuellement, ils font un peu défaut, il n'y en a pas assez, c'est ça?
Et ces couloirs, il n'y en a même pas d'ailleurs. il faudrait qu'on puisse avoir des couloirs de façon légale, avec des documents de toutes les différentes structures existantes pour dire qu'effectivement c'est un commun accord, un consensus, qu'on a donné cet espace-là pour que les animaux puissent se déplacer. Et parce que là, c'est, en ce qui concerne les différents conflits entre agriculteurs et éleveurs, ça va quand même diminuer un peu ces différents conflits.
Et là, on voit les bêtes là, qui passent dans une petite mare d'eau. Là. Et alors, ici, là, donc partout, il y a de l'eau. Ça, c'était un barrage, c'est ça, avant?
C'était typiquement un barrage pastoral, mais qui était géré par le village. La politique de l'État, c'était de maintenir les éleveurs au nord du pays. C'est pour cela, ici, dans la région du Tchologo, on a bénéficié de 86 barrages.
Ça, c'était dans quelles années?
Les années 1970-1980. Mais aujourd'hui, ces barrages-là sont pratiquement tous détruits. Et vous voyez, ce digue, il est cassé. Apparemment,
C'était une digue, parce que là, il n'y a plus de digue.
Mais oui, il n'y a plus de digue. Voilà que nous sommes même au cœur même du barrage, même actuellement, comme ça.
Vous voyez. Parce que, en fait, il reste très peu d'eau, finalement, pour un barrage.
Il n'y a plus rien, il n'y en a plus rien, voilà. On nous a expliqué dans un autre village là-bas qu'un pêcheur, pour avoir plus de poissons, a percé la digue, comme quoi après il allait souder avec du ciment. Mais ça a lâché, de par la faute d'une seule personne.
C'est grave pour les éleveurs.
Mais très grave, très grave. Et c'est ce qui provoque les déplacements, c'est ce qui provoque les destructions des plantations. Les infrastructures ne sont pas en place. C'est ce qui fait qu'il y a un peu tous ces petits désordres.
Ouattara Suleiman.
Donc monsieur Ouattara, donc vous êtes éleveur ici, dans la région.
Oui. Oui.
Concrètement, vous personnellement, quels sont les problèmes que vous rencontrez en tant qu'éleveur?
En tant qu'éleveur aujourd'hui, c'est le problème d'eau et le problème des pâturages. Parce que les champs aujourd'hui dominent. Et les barrages qui étaient créés à l'époque ont commencé à tarir. Et surtout aussi, puisque les gens, la nature aussi commence à nous défavoriser avec le changement climatique, il ne pleut pas assez. Donc du coup, les rivières ont pris un coup. Ils sèchent très tôt. Donc, dès qu'à partir du mois de janvier déjà, les gens commencent à partir en transhumance.
Okay, merci.
Merci.
Le grand bal des motos là.
Oui.
Monsieur Kone Lassina, président du conseil régional du Tchologo. Avec la crise et le développement des cultures maraîchères, tous les barrages pratiquement ont été donc envahis. Les abords des barrages ont été envahis pour les cultures maraîchères.
Alors qu'ils avaient été créés pour l'élevage au début.
Oui. Et aujourd'hui, ils savent qu'il y a beaucoup d'argent à gagner dans les cultures maraîchères. Donc ça fait que tout ce qui est barrage est envahi par les populations pour les cultures. On va donc faire de la sensibilisation et amener les populations à ne pas se coller forcément au barrage. On peut faire des systèmes d'irrigation pour éloigner un peu plus les cultures du barrage et permettre des passages pour que ces animaux puissent s'abreuver. Voilà. Alors, ce que je pense.
Réhabiliter un barrage, créer des systèmes d'irrigation, tout cela a un coût. Oui. Est-ce que vous pouvez le supporter, ce coût?
En tant que région, on ne peut pas le supporter, mais je pense qu'en essayant de résoudre le problème, on peut avoir des structures ou nationales ou internationales qui peuvent nous appuyer pour d'abord réhabiliter les barrages. Parce que là, il y a un problème, effectivement. Il y a un certain nombre de barrages qui sont vraiment défectueux, qui sont ou qui se sont affaissés, ou bien qui sont envahis par la boue. Ensuite, comme je viens de l'expliquer, la question que vous me posez, c'est vraiment de trouver des financements pour résoudre le problème, pour ne pas qu'il y ait des conflits et pour permettre donc une bonne cohabitation entre les éleveurs et les agriculteurs.
Je suis Arnaud François, responsable des programmes Afrique au sein de l'ONG Acting for Life. La Côte d'Ivoire s'est donné comme objectif de pouvoir répondre à une partie de sa demande en viande bovine carnée dans son scénario 2 du plan stratégique du développement de l'élevage et de la pêche de l'aquaculture, le fameux PS DEPA 2014-2020 qui est sa référence. Elle s'est donné comme objectif d'abattre 56 000 tonnes de carcasses qui correspondent à peu près à 100 000 têtes d'animaux. En gros, je vous évite les calculs très techniques, mais 100 000 têtes d'animaux, ça correspond en gros à 1 million de têtes de cheptel, puisque c'est 10% le taux d'exploitation.
C'est-à-dire que pour pouvoir abattre 100 000 bêtes, il faut qu'il y en ait au moins 1 million, voilà, pour que les bêtes se reproduisent et que le cheptel perdure.
Exactement. Et ce million, après, pour le faire pâturer, à la différence des pays sahéliens où il faut de 7 à 14 hectares par animal, on va dire ici entre 2 et 5 hectares. Mais soyons même optimistes, disons 2. Mais même 2 millions d'hectares, pour trouver ces 2 millions d'hectares, je crois, je ne veux pas faire de faux calculs, mais c'est quoi, c'est un dixième de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que privatiser des espaces, faire taxer des ressources et trouver 2 millions d'hectares, ça veut dire derrière tout ça des politiques publiques très très incitatives en termes de créer vraiment des espaces seulement pour l'élevage. Alors en même temps, on ne va pas couper tous les anacardiers, on ne va pas arrêter le coton. Il y a beaucoup d'autres cultures, donc il faut trouver des dispositifs qui, à notre avis, puissent améliorer le passage de ces animaux dans des zones où l'agriculture ne sera pas présente, ce qui évitera tous les conflits agriculteurs-éleveurs, puisque c'est quand même ça là qu'on recherche avant tout, une cohabitation en harmonie de ces deux systèmes d'exploitation, agriculture et élevage. Il ne s'agit pas de dire que pour l'élevage, on va arrêter de faire de l'agriculture, ça n'aurait pas de sens. Mais par contre, cette cohabitation pacifique de ces deux systèmes d'exploitation, qui sont à notre avis très importantes pour la Côte d'Ivoire, demande à ce qu'il y ait vraiment une démarcation, une sécurisation de ces passages qui sont prévus dans la loi, et c'est une très bonne chose. Et par contre, peut-être réfléchir, en tout cas se questionner un petit peu plus sur les aspects contraignants de la privatisation de l'accès aux ressources.
La Côte d'Ivoire a adopté une nouvelle loi relative à la transhumance et au déplacement du bétail. Mais le pays compte s'appuyer sur les particuliers pour qu'ils aménagent des aires de repos et de pâturage, moyennant finances. Les éleveurs accepteront-ils de payer? Si oui, quelles seront les conséquences sur le prix de la viande et donc sur les consommateurs? Le pays souhaite également interdire le convoyage commercial des animaux sur pied. La viande vendue à Abidjan ou d'autres grandes villes devra donc arriver par la route. Mais ces mesures ne vont pas dans le sens de la tradition pastorale, Arnaud François de l'ONG Acting for Life.
Si cette mobilité est remise en cause, ça veut dire qu'on va avoir des gens qui vont de moins en moins bouger, ou en tout cas ceux qui vont bouger vont être les gens qui pourront se permettre de bouger, puisqu'on a calculé qu'aujourd'hui, en dessous de 50 têtes, on ne bouge plus, c'est trop compliqué, c'est trop risqué, et ça coûte à peu près 2000 euros. 1 200 000 francs CFA par famille pour bouger. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va créer progressivement une asymétrie entre pasteurs et agro-pasteurs qui pourront toujours bouger et ceux qui progressivement ne pourront plus bouger, qui vont sortir du système. Donc la question qui est posée directement aux États, c'est que fait-on de ces gens qui vont sortir du système? Est-ce qu'il y a une offre qui leur est proposée, une offre d'emploi, une offre de diversification de revenus qui leur est proposée à tous ces gens qui vont sortir du système? Et évidemment, les politiques publiques sont un vecteur important pour pouvoir, enfin indispensable, c'est eux le chef d'orchestre de tout ça, pour arriver à trouver un moyen de cohabitation entre les différents usagers.
Vous pouvez vous présenter?
Vraiment, je maîtrise pas le français.
Pour leur avenir, pour leur avenir, en tout cas pour eux, c'est incertain, puisqu'ils ne savent pas lire ni écrire, ils ne savent rien faire si ce n'est pas l'élevage, et actuellement l'élevage est devenu tout un problème ici, et pour élever du bétail ici, c'est devenu tout un problème, en tout cas ils ont toutes sortes de problèmes, soit si ce n'est pas pour mourir demain, en tout cas ils savent que c'est presque la fin, si rien n'est fait. À l'allure où ça va, il dit d'ici 2 ans, en tout cas, ils ne pourront plus exercer leur métier de l'élevage. C'est tout ce qu'il a pu dire. Puis bon, ils disent que bon, partout où ils vont, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de piste de passage. C'est-à-dire comme les pistes de transhumance, c'est faux. Il n'y en a pas. Donc d'ici 2 ans, en tout cas, l'élevage va disparaître à leur niveau, en tout cas.
Merci, monsieur.
Merci.
Merci. Merci.
France, une mobilité en péril. C'est un reportage d'Igor Strauss réalisé par François Porcheron. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre application Pure Radio et sur notre site internet RFI.fr dans la rubrique émissions. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.